lycée, parce que ça vous intéressera peut-être de savoir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et puis ensuite, la période d'après le débarquement qui a été la période des combats.
Bien.
Pasteur François.
Oh, ben je vais me lever. C'est bon, tout le monde. Là. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je pense que il faut quand même faire une petite différence avec vous. Et il y a aussi, évidemment, des points communs. La preuve, c'est que nous avons été, à l'âge que vous avez, été élèves de ce lycée, qui aurait bien changé. Mais de vous retrouver, ça nous fait bien plaisir, ça nous rajeunit.
Et comment ?
Je pense que une des premières questions qui nous est posée par et qui nous sera probablement posée, mais j'y réponds à l'avance, par les élèves qu'on a pu déjà rencontrer les années précédentes, c'est pourquoi vous êtes entré dans la résistance, comment vous êtes entré dans la résistance. Alors, je vais vous dire à titre personnel comment ça m'est arrivé. Plutôt, d'abord, pourquoi ? Pourquoi j'ai réfléchi là et puis je me suis dit, si j'avais pas eu une enfance et une jeunesse comme ça, je ne serais peut-être pas entré dans la résistance. Je suis originaire de la Dombe, un petit village de la Dombe, puis ensuite j'ai passé ma jeunesse dans un village un peu plus gros qui s'appelle Villars-les-Dombes, je ne sais pas si vous connaissez. Ma mère tenait une quincaillerie qui s'appelait quincaillerie, mais qui faisait droguerie, toutes sortes de choses, vous savez, dans les villages, il fallait satisfaire toutes sortes de demandes des clientèles. Je dirais d'elle qu'elle avait été élevée dans la religion catholique et qu'elle en avait conservé des principes qui me sont restés. Voilà. Je ne sais pas si je saurais encore répéter les tables de la loi de Moïse, les 10 commandements de l'Église, 10 commandements de Dieu, etc., qu'on nous faisait apprendre quand on allait au catéchisme. Mais j'ai retenu d'elle quelques principes, dont deux qui me sont parus essentiels. D'abord, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Et puis le deuxième, « tu ne tueras point ». Bon, je passe là-dessus, je passe à mon père. Mon père, qui tenait aussi la quincaillerie, mais qui par ailleurs avait pas mal d'activités rurales, en particulier avec son père, il faisait de l'élevage de bestiaux, etc. quoi, bon. Mais qui avait conservé de la guerre de 14-18 un très profond souvenir. Il était né en 95, je parle de 1895 bien sûr. Autrement dit, il avait 20 ans à la déclaration de guerre. Il n'était pas tellement chaud pour y aller, encore qu'il fallait défendre la patrie, et qu'il avait comme principe la défense de la République et la laïcité. Ça, il me l'a toujours dit, et puis j'ai dû en garder quelque chose. Lui était plutôt pacifiste, et ça s'est découvert un jour où dans les Vosges, il s'est trouvé face à face avec des Allemands. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient quelques-uns, et puis au lieu de se tirer dessus, ils ont baissé les fusils et ils ont fait ce qu'on a appelé à l'époque de la collaboration. Enfin, c'était pas la collaboration, c'était la fraternisation. La fraternisation qui a consisté à ce moment-là à faire des échanges de pinards, de schnapps. Pinard, c'était le vin rouge, hein, de schnapps, de tabac, etc. Et comme le front, pendant une quinzaine de jours, a été très calme, eh bien, les responsables de l'armée se sont demandé ce qui se passait, ils se sont aperçus, et mon père a donc été, avec son régiment, en punition à l'Hartmann-Villerkopf, c'est-à-dire un lieu où on commençait à se battre dans les tranchées, et qui était très, très meurtrier. Après quoi, il est allé en Orient, où il s'est battu aux côtés des Serbes et contre les Bulgares. Enfin, vous avez appris ça, ou vous allez l'apprendre dans les cours d'histoire. Et quand il est revenu, ben, ma foi, il a été marqué par la maladie d'abord, le paludisme, et puis ensuite par des tas de souvenirs. Et il est devenu, pour ainsi dire, pacifiste. Il l'était encore plus qu'auparavant. Hein. Il n'aimait pas bien les médailles, il n'aimait pas bien les drapeaux, il m'en est resté aussi quelque chose. Par la suite, en plus, je dois rendre un particulier hommage à mes instituteurs. L'école primaire, à l'époque, était formatrice non seulement en enseignement, mais aussi en éducation. Et là, encore, la laïcité a été quelque chose qui a été à la base de ma formation. Je suis entré dans un collège qui s'appelait à l'époque École primaire supérieure et qui avait comme but de préparer des classes moyennes, des responsables des PTT, de la trésorerie, etc. Et à ce moment-là, l'essentiel était de préparer des instituteurs. Tout naturellement, je me suis trouvé élève à l'école normale, j'ai passé le concours, bien sûr. Et alors, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, c'était quand même que. En 1939, ça a été la déclaration de guerre. Et puis en 1940, vous savez, la débâcle, et la débâcle, et la défaite, et la prise en main, par ce qu'a évoqué Jean Marinet tout à l'heure, par le gouvernement de Vichy. Une des premières décisions du gouvernement de Vichy, ça a été de supprimer les écoles normales. Il y en a eu d'autres qu'on a appris par la suite, mais enfin qu'on a apprises quand même. En particulier la lutte contre les Juifs. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir que la France était occupée dans le nord et dans l'ouest par des ennemis, par des Allemands. Et une de nos premières réactions a été de se dire, mais on ne peut pas laisser faire ça, hein, il faut qu'on se joigne à tous ceux qui sont contre cette décision de Pétain, contre l'entrevue de Montoire, là où Pétain a serré la main à Hitler, ça, on ne pouvait pas l'avaler. Et il y a eu à ce moment-là, évidemment, un mouvement en faveur du seul qui avait pris la responsabilité de la résistance, à savoir le général de Gaulle, qui était parti, évidemment, en Grande-Bretagne. Bon, alors, se trouvant entre normaliens, décriés par nos collègues, hein, il faut le dire. Il faut dire qu'à l'époque, les lycées, c'était plutôt un milieu petit bourgeois, disons, tandis que les écoles primaires supérieures, c'était milieu rural. Alors, la promotion avant la nôtre, qui comprenait 17 élèves de l'école normale, avait subi, disons, des attitudes qui n'ont pas été très, très gentilles de la part des élèves, et puis ensuite qui a été très, très estimée de la part des professeurs. Il se trouve que les 17 normaliens que nous étions, à la fin du premier trimestre, on se trouvait déjà les 17 premiers, parce qu'on avait été préparés à des disciplines qui étaient discipline très rigoureuse au point de vue intellectuel. Et par la suite, les professeurs nous ont voué une amitié, il faut le dire. Et puis nos collègues, issus de ces milieux petits bourgeois qu'on se disait, oh, c'est pas pour nous, eh bien, ça a été la même chose. On a été même de grands amis avec ceux qu'on appelait les lycéens. Nous étions aussi lycéens de force, mais nous, c'était d'un côté normalien, de l'autre côté lycéen. Voilà. Et alors, il s'est produit ici, évidemment, des événements qui auraient pu être considérés comme secondaires, mais qui ont été essentiels. Alors, je vous raconterai une petite histoire. À proximité d'ici, rue du gouvernement, qui est maintenant la rue Victor Bache, se trouvaient des commerçants, et parmi ces commerçants, il y avait un monsieur qui s'occupait de mettre en cadre des photos, etc. Et comme à l'époque, non seulement on avait des difficultés pour se nourrir, mais aussi pour trouver des livres scolaires, ben, ils faisaient en quelque sorte un commerce qui nous rendait bien service, qui lui permettait de récupérer les livres qui avaient été utilisés par nos collègues précédents et de nous revendre à bas prix, etc. Alors donc, il y avait ici, avec ce monsieur, une certaine sympathie qui est vite venue de la connivence parce que quelques-uns parmi nous se sont aperçus que s'il y avait des gaullistes, ils se trouvaient aussi ici. Et que lui en était un. On a appris par la suite que c'était un des principaux responsables du mouvement Libération. Petite anecdote, il vendait des livres, il vendait des photographies, et dans sa vitrine, un jour, on a vu une très belle photographie du maréchal Pétain. Il fallait que la photo du maréchal Pétain soit dans toutes les classes, au-dessus de la chaire du professeur. Alors, sous cette photographie, il avait une petite étiquette vendue. Alors, évidemment, il y a eu une réaction de la part de la police, de la police de l'époque, hein, qui lui ont dit, vous pouvez pas... Eh, mais je l'ai vendu. Écoutez, vous pouvez pas mettre vendu, ça prête à confusion. Alors, le lendemain, il a changé l'étiquette, il a mis acheté à la place. Alors, tout ceci s'est connu dans la ville de Bourg et c'est connu aussi au lycée. Alors, les deux principaux élèves qui ont fait la liaison avec lui, c'était Marcel Tenon et Marcel Rosette. Par la suite, est devenu Paul Morin. Mais évidemment, il y a eu ici du bouche à oreille qui s'est transmis parmi les grands élèves, hein, de première en particulier et de terminale. Et puis on s'est dit, ben, il y a peut-être ici un moyen de faire quelque chose. Alors parmi nous, Jean Marinet vous en parlera tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient déjà bien engagés dans la résistance du fait de l'appartenance de leurs parents, de leurs amis, etc. Bon. Alors, moi je me trouvais, et je me suis trouvé à côté de Jean Marinet, dans la classe d'études, côte à côte, on y est resté pendant 3 ans, et on est resté amis pendant 60 ans. À cette époque-là, les amitiés qui se fondent sont inaltérables, d'autant plus qu'elles se sont ajoutées, aux amitiés, disons, provenant d'autres sources, ne serait-ce que la résistance, quoi. Alors, Jean Marinet m'entretenait constamment et il me dit, alors, tu sais, il faut vraiment qu'on s'organise, etc. Moi, j'étais pas tellement chaud, je disais, j'attends, je vous ai dit tout à l'heure, tu ne tueras point, aimez-vous les uns les autres. Néanmoins, j'étais absolument outré de voir que les Allemands avaient envahi la France et qu'il fallait les bouter hors de France, comme on dit dans certains chapitres de l'histoire. S'est ajoutée à ce moment-là une connaissance de l'Allemagne qui était tout à fait en défaveur des Allemands. Hitler prônait une idéologie qui était une idéologie vraiment excessive, on ne pouvait pas l'accepter. Il n'y avait qu'une race qui comptait dans le monde, c'était la race des Aryens, avec à leur tête évidemment la race allemande, les grands, beaux, blancs, carrés, etc. quoi. Or, l'humanité est faite d'autre chose. Et à ce moment-là, non seulement nous avons été contre les Allemands, mais comme ennemis, disons, militaires, mais aussi contre les Allemands en tant que fascistes, on disait à l'époque nazistes, déjà ça commençait, les nazis n'étaient pas portés dans notre cœur. Alors, voici en gros comment j'ai été amené personnellement entré dans la résistance. Au mois d'avril 1942, j'étais entré à l'école normale, enfin au lycée, en octobre 1941. Je lui ai donc donné mon accord, sous réserve qu'il ne m'obligerait pas à tuer des hommes en face de moi. Alors, il m'avait dit, on trouvera bien un moyen de te donner des responsabilités. Alors, je suis passé dans une ou deux sizaines. À l'époque, ça commençait à s'organiser hein, par petits groupes, 6 par 6. Je suis passé de la sizaine de Picot-Lançon à une sizaine de Leboeuf. Je ne sais pas, tu t'en souviendrais peut-être mieux que moi, enfin, peu importe. Mais vous voyez, il y avait une organisation. D'où venait cette organisation ? Ben, elle venait du fait qu'il y avait Morin, Tenon, etc., mais aussi du fait que nous avions comme professeur adjoint et surveillant M. Barange, qu'on a appelé par la suite Mickey Barange, qui était toutes les semaines qui était à Lyon et qui faisait la liaison de Libération entre Bourg et Lyon. Et ça a été, on peut dire, celui qui a été l'organisateur de la résistance au lycée. En 1942, a eu lieu un événement dont je me souviens encore. En me penchant par la fenêtre, j'ai vu des Allemands qui arrivaient. C'était en novembre. C'est-à-dire, les Allemands envahissaient la France dans sa totalité. Suite au débarquement américain en Afrique du Nord, c'était en même temps à la marine française, au sabordage de la marine française à Toulon. Alors évidemment, les Allemands étant venus ici, encore davantage, nous sommes mis à les rejeter, à les haïr, etc., et à prendre des dispositions qui étaient pour certaines des dispositions de propagande, puis pour d'autres des dispositions qui étaient vraiment beaucoup plus sévères, hein, et plus organisées. Il y a eu aussi un deuxième événement qu'il faudrait peut-être souligner. C'est début 1943, la décision de Vichy d'envoyer tous les jeunes de deux classes successives comme travailleurs en Allemagne. C'est ce qui a constitué ce qu'on appelait service travail obligatoire, STO. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu aller au STO hein, et qui ont dit il faut qu'on prenne le maquis. C'est à ce moment-là que le maquis s'est constitué de façon plus solide, et en même temps, on peut dire qu'il y a eu une structuration au lycée qui a été beaucoup plus nette, bien organisée, ce qui fait que en 1943 et début 1944, eh bien, le lycée s'est trouvé. Et ça a été un des seuls lycées de France à avoir eu cette position, avec une grande quantité d'élèves qui étaient engagés dans la résistance. Ici, dans ce lycée qui avait 400 élèves, eh bien, il y a eu 2 trentaines. Une trentaine, vous comprenez tout de suite que c'est 5 sixaines. Jean Marinet était responsable d'une trentaine. Il y a eu en 1943, évidemment, des réactions de la police française et des Allemands contre tout ce qui pouvait se passer avec une allure de gaullisme et de résistance. C'est ainsi que Marcel Tenon s'est trouvé, et Paul Morin se sont trouvés en 1943 en prison. L'un a été relâché, a été repris, mais ils se sont retrouvés tous les deux à la centrale d'Est, SEY2SE, qui était réputée comme une centrale très disciplinaire. Et c'est plus tard qu'on a appris que de là Et ils ont été déportés, l'un à Dora et l'autre à Buchenwald, je crois. Donc c'était sérieux. Nous, de notre côté, eh bien, on continuait à faire notre petit travail, qui consistait essentiellement à distribuer des journaux grâce à Mickey Barange, grâce à Paul Pioda. Je n'ai pas donné son nom tout à l'heure, hein, mais Paul Pioda a maintenant son nom dans une rue de Bourg, hein. Le marchand de bouquins et de tableaux. Eh bien, ces deux-là ont fait en sorte que il y a eu des mouvements, des réunions clandestines, bien sûr. Certains d'entre nous ont appris le maniement des armes, en particulier les mitraillettes. D'autres ont collaboré à des actions, ont contribué à des actions de destruction de magasins en faisant sauter des magasins de gens qui étaient trop pétinistes, etc. Moi, j'ai jamais été, je le dis très simplement, engagé dans des actions de ce genre. Mon action était surtout une action de propagande. Je disais aux copains, voilà franc-tireur, voilà combat, voilà libération. Je me souviens même avoir distribué un journal qui était les cahiers du témoignage chrétien. C'est dire que la résistance, c'était quand même quelque chose qui réunissait tous les milieux qui n'étaient pas seulement des milieux de gauche, ils étaient en majorité, il faut le dire, mais qui étaient aussi des milieux très, très militants. Voilà. Bref. Je crois que vous, dans un premier temps, je vous ai dit pourquoi je suis entré à la résistance. Maintenant, comment j'y suis entré. Ce que j'y ai fait, pas grand-chose. Ah si, il y a une chose qui me paraissait très importante. Nous allions en sport au stade Verchères, mais pour imiter les Allemands, les chantiers de jeunesse, les compagnons de France à l'époque, etc., il fallait chanter. Alors, moi, comme j'étais un petit peu un bout en train, je faisais chanter. Et d'abord, les chansons, c'était celles qu'on héritait de Pétain. Sur la route de Dijon, la belle Digodi, la belle Digodon, vous voyez à peu près. Puis je me suis dit, un jour, il faut qu'on chante autre chose. Et par la suite, pendant à de nombreuses occasions, notre professeur de français, de DPS, qui était Marcel Cochet, dit, Rabuel, faites-nous chanter. Alors, je faisais chanter. C'est vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Ça faisait un certain effet dans les rues de Bourg. Alors, on avait très souvent des gens qui avait le sourire en nous voyant passer. Mais ce dont on ne s'est pas méfié, c'est qu'il y avait aussi des gens qui désavouaient cette attitude. Et il y a eu, parmi nous, des lycéens qui non seulement désavouaient cette attitude, mais qui, en douce, nous ont combattus. Alors j'en arrive à la troisième partie, qui est...
Excuse-moi, François, ouais. Tu oublies de dire que on chantait cette chanson en marchant au pas en rang par quatre. Ouais. On l'a fait une fois derrière une colonne allemande
Oui.
qui revenait d'exercice et qui chantait Ali
Ali.
On était à 20 mètres derrière eux, on marchait au pas comme eux et on chantait Vous n'aurez pas l'Alsace.
Oui. Alors moi j'y étais pas ce jour-là, mais comme c'est quand même c'est moi qui avais appris ces chansons.
Pas mal de bruit, le préfet a été alerté, il a réprimandé le proviseur qui n'y pouvait rien. Et Marcel Cochin, notre prof de gym, s'est bien fait engueuler aussi. Ensuite, il a été arrêté et déporté.
Oui.
Et le spectacle des deux colonnes
c'est
derrière l'autre s'est détourné de notre itinéraire habituel et on a pris l'avenue de la Sorelle pour suivre la colonne allemande. C'était une provocation. Ça aurait pu tourner très mal, mais bon, ça, ça faisait un dégagement.
Voilà, voilà. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes comme celle-ci qui pourraient être racontées, quoi, bien sûr. Une histoire de caillou jeté par-dessus le mur là-bas, et un caillou qui a atteint la troupe allemande qui défilait, et bien sûr, il y a eu réaction. Tout ça a fait soupçonner le lycée d'être un noyau de la résistance, et on a été surveillé de très près. Alors, je n'irai pas plus loin, je passe à un troisième paragraphe, parce que sinon je risque d'être un petit peu trop long. Il faut savoir que, à cette époque, le certificat... Alors, d'abord, que les filles et les garçons étaient séparés dans deux lycées différents, le lycée Lalande pour les garçons, et le lycée... Edgar Quinet, qui était à la place de Marcel Pardet maintenant, qui était le lycée de filles. Alors moi, je suis issu du lycée de garçons. Mon épouse, lycée, il s'était interdit de se voir. La preuve, c'est qu'on a bien...
Cette première mixité, je peux vous signaler de la façon dont elle s'est passée, c'est-à-dire que les militaires français, avant 1939, ont transformé le lycée de filles en hôpital.
Et oui.
Militaire prévision des combats qui allaient se produire, mais comme les Français n'avaient pas envie de se battre, il n'y a pas eu de combat jusqu'à ce que les Allemands nous envahissent, très peu, à la frontière, et parce qu'il faut dire une chose, les Français n'avaient pas envie de se battre, ça c'est sûr. Ça c'est le résumé de tout ce qu'on vient de vous dire. On n'avait pas du tout envie de se battre. Et puis, avec la pression qui nous a été mise avec les Allemands, ça a changé, comme il vient justement de vous préciser. Il faut comprendre ce processus. Mais moi, ce lycée de garçons, qui a été amélioré avec les filles, je dis bien amélioré parce que j'y ai trouvé ma femme.
Oui, parce qu'il y a eu quand même les filles de Mathelem venaient suivre des cours au lycée.
Avant la guerre. Mais oui. Là, c'était...
Si, pendant la guerre.
Oui, en Mathelem, mais il y en avait dans toutes les classes. Moi, j'ai un peu fait Mathelem, mais j'avais 5 filles dans ma classe.
Oui, voilà. Mais ça a été... circonscrit. Bien. Alors, je disais donc que le lycée, qu'il y avait deux lycées. Je dirais aussi qu'il y avait deux baccalauréats. Un baccalauréat première partie, avec écrit et oral, bien sûr, qui était en fin de première. Et puis un baccalauréat deuxième partie, qui permettait d'avoir le diplôme de façon définitive. Alors, il s'est trouvé que le 4 juin 1944, la première partie du baccalauréat a été terminée. Et comme la résistance était bien organisée, eh bien, le premier coup de main a eu lieu le lendemain. Il a été conduit par 5 personnes en voiture, etc. Et il s'agissait d'enlever... pour le maquis, les fonds de trésorerie, de la trésorerie générale, qui est à deux pas d'ici, rue Tanière. Jean Marinet vous racontera ça, parce qu'il faisait partie des 5 en question. Mais il y a eu une trahison, et ce qui a attendu au moment du coup de main ce petit groupe, eh ben, c'était un quart de milicien ou de... des véhicules de miliciens, je crois.
Un camion.
Alors, bon, tu as réussi à t'en tirer, mais il y en a d'autres qui y sont restés, et en particulier un de nos amis de la première partie, là, qui a été atteint d'une balle dans la clavicule. Bon, alors, inutile de vous dire que sur la ville de Bourg, ça a fait un certain éclat. On peut le dire. Et le lendemain, nous avons eu la dernière épreuve du baccalauréat. J'assistais à cette dernière épreuve, qui était une épreuve de sciences naturelles, assimilation chlorophylienne, je crois, qui avait été reportée de la veille parce qu'il y avait eu, il faut le dire aussi, les Anglais passaient très souvent au-dessus de Bourg pour aller... bombardé en Italie, etc. Bon, Et là, il y avait eu une alerte qui nous avait interrompu. Donc j'ai passé une moitié de sciences naturelles avec un certain sujet un jour, et le lendemain, autre sujet. Bon. Et on était à une heure et demie d'écriture de nos devoirs. Vous pensez, quand on a la tête comme ça, on se dit, tiens, le CO2 rejeté, le CO2 assimilé, l'oxygène, etc. Vous voyez, hein, vous avez dû apprendre ça, vous l'apprenez, j'en sais rien, bref. Et à un moment donné, on entend... Qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre, la fenêtre qui était entrouverte est enfoncée, un gars apparaît, le premier qui bouge, je lui brûle la gueule. C'était les miliciens. Alors, les miliciens ont donc envahi le lycée. On a fait sortir tous les élèves des classes où ils étaient en train de composer. Ils ont placé sous le péristyle les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu un milicien, je ne sais pas si c'était D'Agostini, le chef, ou un autre, qui a pris la parole, qui a tiré une liste de sa poche et qui a commencé par dire un tel, un tel, un tel. Alors moi, je me suis dit, tu es peut-être bien là-dedans. Et j'ai senti que c'était par ordre alphabétique. Alors, il y avait Picot, Pellet, Rabuel, Rude. Oh, j'ai dit ça y est. Et aussitôt, ils nous ont, dans la cour d'honneur, alignés contre le mur. Ils nous ont fait rejoindre ici par quelques professeurs. Ça a continué à faire des coups de revolver, etc., un peu partout. L'un des miliciens s'est mis à crier « Bourgeois, oui, bourgeois !» etc. Bourgeois, c'était notre syrien général. Il appartenait à la résistance, mais pas au même groupe que nous. Alors, ils ont fini par le trouver, le rouer de coups, le battre par terre, à coups de crosse, à coups de pied, etc. Bon. Alors, comment réagir dans un cas comme ça, sinon se tenir à carreau, hein, entre le mur. Et puis, à un moment donné, on nous a emmenés dans les casiers des études, les casiers du vestiaire, du dortoir. Et alors, manque de chance, il y avait un de nos amis, qui s'appelle Pierre Figuet, qui est le président de notre association, là, qui avait une carte d'état-major dans son casier, une carte d'état-major qui se rapportait à la forêt de Seillon. Et à la forêt de Seillon, il y avait le projet de faire un petit groupe de maquisards. Alors, les miliciens étaient au courant. Ouais. Et évidemment, à partir de là, je raconte très rapidement le reste. Ils ont choisi une soixantaine de lycéens, dont les 10 qui avaient été arrêtés. Ils nous ont mis dans des camions non bâchés, et sous la pluie, il s'est mis à pleuvoir comme ça. On nous a emmenés à Saint-Amour, et à Saint-Amour a commencé un interrogatoire, mais plus que musclé. Hein. Bon, n'entrons pas dans les détails. Sachez quand même que c'est pas très agréable de se retrouver à danser tout nu avec des ceinturons, de se retrouver par terre battu aussi avec ses ceinturons du côté de la boucle, bien entendu, et puis d'avoir des difficultés à se rhabiller, à se retrouver dans une grange. Et par la suite, évidemment, comme c'était une date qui est restée mémorable et qui avait touché beaucoup les miliciens, c'était la date du débarquement, c'était le 6 juin 44. Alors, les miliciens étaient très énervés et ils nous ont ramenés à Bourg, laissés pendant une journée dans un car, sans boire ni manger. On a été interrogé par la police française officielle et non pas par les milices. Puis ensuite, on nous a emmenés à l'Hôtel de l'Europe, ce qui est maintenant Qu'est-ce que c'est maintenant la
salle des ventes.
La salle des ventes. Ouais. Et ici, on a été enfermés pendant près de 3 semaines. On nous interrogeait tous les jours. On nous promettait d'être fusillés. On nous promettait le soir d'être fusillés le lendemain. Enfin, oui. Néanmoins, il y a quand même des personnes qui ont pu venir nous voir, nous apporter un peu de ravitaillement, etc. Et il y a eu une telle levée d'opinion à Bourg que les miliciens ont consenti à nous remettre aux Allemands. Donc on a été remis aux Allemands et on s'est retrouvé quelque part à Lyon-Perrache avec des quantités de gens qui avaient été, comme nous, soit raflés, soit arrêtés. Alors à dire que dans les caves de l'hôtel de l'Europe en question, il n'y avait pas que ces lycéens, on était peut-être 60, 80, tous des gens qui, du fait de la mise en œuvre des actions miliciennes, des actions maquisardes, ont été rapidement remplis. On a trouvé ici toutes sortes de gens qui étaient responsables, peut-être aussi des gens qui étaient, disons, des taupes, hein, au service de la milice. Il y a eu des drames. Moi, je me souviens très bien de Venet, qui faisait partie des fuges, parce que le lycée faisait partie des forces unies de la jeunesse, mais qui n'était pas un lycéen, hein, et qui a été ligoté avec des fils de fer dans le dos, et qui a été interrogé au cours de son interrogatoire, alors qu'il a dit tout ce qu'il avait à cracher au visage des miliciens. Oui, vous dites que vous battez contre les Allemands, mais nous battons aussi contre les Allemands, et on se bat contre Hitler. Seulement, qui est-ce qu'on a trouvé aux côtés des Allemands? C'est vous. Oui, il attaquait les miliciens, si bien que à un moment donné, dans le grand silence, il y a un milicien qui est descendu, il dit « L'un d'entre vous a essayé de s'échapper, il vient d'être abattu. » Il lui avait dit « Allez, tu pars », et ils l'ont descendu, quoi. Oh là là, c'était pas très très drôle, hein. Et de là, ma foi, on nous a emmenés à la caserne de la Pépinière, à Paris. De là, nos trains ont été bombardés, parce que les Américains et les Anglais ne se privaient pas de le faire pour détruire les lignes de chemin de fer. On s'est retrouvé à Berlin, Francfort sur le Main, et on devait aller en Haute-Silésie, en Pologne donc, aux mines de Wieliczka. Quand on est arrivé là-bas, on nous a fait faire demi-tour, et nous sommes retrouvés dans un camp. Un camp qui n'est pas, il faut bien le dire, un camp de concentration, mais un camp de représailles. Alors, j'arrête ici ma petite histoire. Si vous en voulez davantage, vous poserez des questions. Je crois maintenant qu'il est temps que je passe la parole à Jean Marinet, qui, lui, n'a pas été déporté, mais qui a été un membre très actif du maquis du département de l'Ain.
Ouais. Je vais reprendre très rapidement ta réponse à la question qu'on n'avait pas posée les lycéens. Comment êtes-vous entré en résistance si jeune? Pourquoi et pourquoi?
Ouais.
Et je vais en parler parce que mes raisons sont différentes de celles de François, qui est mon meilleur ami, mais bon, on avait une différence là-dessus. Je suis issu d'une famille ouvrière. Et mon père était, en 36-38, militant syndicaliste. Et on avait suivi avec attention ce qui se passait en Espagne. C'est la guerre d'Espagne, c'est-à-dire la révolte des militaires dirigés par Franco contre la République espagnole. Vous avez peut-être entendu parler de cette guerre d'Espagne. Donc, les rebelles militaires contre le pouvoir légal républicain en Espagne. C'était une guerre atroce, extrêmement meurtrière. Extrêmement meurtrière. On avait suivi ça. Sachez que pour la guerre d'Espagne, Hitler avait fourni non seulement des hommes, mais aussi des avions. Le bombardement de Guernica, ça vous dit peut-être quelque chose, mm-hmm. puisque ça donnait lieu à une œuvre picturale. Le bombardement de Guernica, ce sont les Allemands qui l'ont fait. Ils s'entraînaient à la future guerre contre la France en Espagne. L'Italie également a contribué fortement, surtout en hommes. Alors donc, en suivant ce qui se passait en Espagne, et en ayant de la sympathie pour les républicains, et de l'antipathie pour Franco le dictateur, on avait déjà une certaine notion de ce qu'était le nazisme ou le fascisme, qui s'était retrouvé ensemble en Espagne. Lorsque la guerre est arrivée en France, ben, comme tout le monde, on a été assommé par cette défaite ultra rapide en 1940. Et les Allemands qui sont arrivés étaient non seulement les ennemis héréditaires, parce que c'est ça finalement, hein, la France est toujours battue contre l'Allemagne. Ça n'était pour nous, pour ma famille et pour ce que j'avais appris. C'était pas seulement les ennemis héréditaires, c'était aussi les nazis. C'est-à-dire la dictature d'Hitler, qu'on avait vu à l'œuvre donc pour aider l'Espagne, et dont on savait ce qu'il voulait faire. Parce que tout ce qu'il voulait faire, il l'avait écrit dès 1925, je crois, dans son livre intitulé Mein Kampf. Il avait tout écrit, et il a tout fait d'ailleurs. Suppression de toutes les libertés, suprématie raciale des grands Allemands blancs aux yeux bleus, ce qui n'était pas son cas à lui d'ailleurs, curieux. Et puis l'élimination des Juifs, l'élimination de tous les gens de gauche, les sociodémocrates. On savait ça dès que les premiers Allemands sont arrivés en France. Donc, on est entré en résistance, au début sans organisation, mais dans l'esprit, on est entré en résistance tout de suite, sans se poser de questions, parce qu'on savait ce qu'était. Les Allemands n'étaient pas que les Allemands, ils étaient les nazis, c'est-à-dire le régime abominable qu'on a connu après. Donc, nous étions prêts à être entrés en résistance et on a assisté, participé au début de regroupement des gens comme nous. C'est des syndicalistes qui ont bougé au début. Fin 1940, il y a eu une réunion syndicaliste à Génicia, par exemple. Génicia, grand barrage, beaucoup d'ouvriers. Pour essayer de reconstituer ses forces. Parce que Pétain s'était empressé, lui, de dissoudre tous les partis politiques, dissoudre tous les syndicats, dissoudre toutes les associations. Pétain avait pris le pouvoir donc à la faveur de la défaite et en ayant accepté le diktat des Allemands. Mais en même temps, il était en train d'installer en France un régime autoritaire, un régime presque fasciste.
Presque fasciste. C'était sûr.
Tout le monde n'a pas compris tout de suite. Hein. Il y a un tas de gens qui étaient soulagés que la guerre s'arrête. Ils disaient, bien, Pétain, il arrête tout, on va être tranquille. Ce sont ceux qui ne comprenaient pas que les mesures prises par Pétain tout de suite étaient déjà des mesures fascistes. Ils ont compris plus tard, quand les Allemands ont commencé à devenir très méchants, et quand la police française, puis ensuite la milice, ont commencé à devenir très méchants.
La police a changé. Ils étaient bien obligés d'être policiers parce qu'ils voulaient manger, mais la moitié, au moins, la faim était de l'autre bord.
Oui, ils ont quand même bien fait. Dans l'ensemble, ils ont quand même bien fait leur travail. Et les premiers résistants donc, qui commençaient à se regrouper étaient en butte aux enquêtes de la police française, de la police allemande, c'est-à-dire la Gestapo, et de la milice. Donc plus tard, en 1943, quand Pétain a créé la milice, c'est-à-dire une organisation française dotée de pouvoirs de police, il faisait des enquêtes, et dotée d'un armement et d'un pouvoir militaire. La milice a côtoyé les Allemands dans toutes les actions contre les maquis. Donc on avait tout ça en face de nous.
À la libération, ils sont partis avec les Allemands, d'ailleurs.
Oui,
ils ont suivi
les Allemands. Donc cette création de la résistance qui a été très progressive, très lente au début. En 1941, tout le monde acclamait Pétain, même en 1942, qui se déclarait gaulliste. D'ailleurs, on ne pouvait pas se déclarer gaulliste, sous peine d'être arrêté. Il ne fallait pas écouter Radio Londres, sous peine d'être arrêté. Arrêté par la police française, et dans certains cas, livré aux Allemands, ou en tout cas emprisonné. Nos amis qui ont vraiment créé la résistance dans le lycée, dont tu as donné les noms, c'est-à-dire Tenon, Morin, et puis notre prof de gym, Marcel Cochet, ont été arrêtés par la police française suite à une enquête de la police française qui les a qualifiés donc de militants gaullistes. Les gaullistes, les résistants, c'était des gaullistes. Ils ont donc été jugés par un tribunal français à un certain nombre d'années de prison, puis donc emprisonnés et transférés dans une grande centrale, mélangée donc avec les voyous et les assassins, la centrale d'Es, dans Lot-et-Garonne, c'était mélangé avec tous les voyous. Et de là, suite à une tentative de rébellion, tentative collective d'évasion, les Allemands ont pris possession de la prison et ils ont tous fini dans un camp d'épuisement, tous allés en déportation. Où certains sont morts, et d'autres sont revenus, comme Paul Morin, qui pesait 30 kilos quand il est rentré. À peu près de mon gabarit, quand il est rentré, il pesait 30 kilos, il a eu la chance de rentrer. Hein. Alors, la création de la résistance, ça a été quelque chose de difficile, de très progressif, par une sorte de tache d'huile qui se répandait tout doucement. Embrigader quelqu'un dans la résistance, c'était pas commode, parce qu'il fallait bien choisir son interlocuteur, être sûr de lui. Quand j'en ai parlé à François, je savais que j'étais sûr de lui. D'autres se sont trompés et ont parlé à des gens qui n'avaient pas envie d'entrer dans la résistance et puis qui ont bavardé ensuite. Sachez que la période d'occupation a été une période de mouchardage, de délation. On n'a pas bien lieu d'être fier quand même de cette période.
Ceux qui se sont fait embrigader volontairement pour ça.
Ouais. Il y avait beaucoup de mouchards. Alors, il y avait des mouchards pour des raisons stupides. Je pourrais vous montrer là une lettre de dénonciation dans l'écriture et le style montre que c'était quelqu'un de la base, disons, et qui dénonçait quelqu'un en tant que résistant pour de futiles raisons de jalousie. D'autres, par contre, le faisaient par conviction. Par conviction, ils avaient adopté le régime nazi. D'autres le faisaient pour l'argent. La Gestapo avait installé tout un réseau de mouchards pas connus et payés, et qui tendaient leurs grandes oreilles pour essayer de repérer des opérations de résistance. D'ailleurs, encore vous racontez tout à l'heure l'arrestation par la milice, basé sur une liste de 11 noms, et cette liste avait été établie par un lycéen qui était parmi nous, qui était un milicien camouflé. On ne savait pas qu'il était milicien. Il était là apparemment très neutre et se contentait d'écouter.
Et j'ai bien su que c'était un milicien parce que quand nous étions dans les caves de l'Hôtel de l'Europe, eh bien, il est venu nous voir, très, très orgueilleux, on peut dire. En habit de milicien, il avait le revolver, la grenade à la ceinture. Voilà. On a tout de suite compris qui nous avait vendu. Quoi.
Il faut bien avoir ça à l'esprit. Ça fait pas plaisir de dire ça en étant français, mais la délation à ce moment-là, c'était un phénomène absolument général. Mon père a été arrêté sur la délation d'un membre de la Gestapo. Dans le pays de Gex, Bellegarde pays de Gex, il y avait un chef français de la Gestapo, connu de tous, il ne se cachait pas, mais qui avait tout un réseau d'indicateurs, des petits voyous, des bons à rien, qui faisaient ça pour de l'argent. Et c'est un membre d'un commando a eu la langue un peu trop longue auprès de quelqu'un qu'il croyait être un ami, et c'était un dénonciateur de la Gestapo. Il a dénoncé, et le réseau, 4 personnes là, ont été arrêtés, et mon père est mort dans un camp de déportation à cause de ça. Sachez que on a retrouvé plus de 2 millions de lettres de dénonciation. Et je crois que le chiffre a encore augmenté depuis la dernière estimation. Plus de 2 millions de lettres de dénonciation.
Oui, au lieu d'être fier de ça.
Non, et ça a fait beaucoup de mal à la résistance, puisque on était constamment en danger à cause de ça. Je pense que tu veux dire ton entrée en résistance et puis on me posait des questions plus concrètes sur notre vie de résistant, la vie des maquis.
Les maquis, ça serait intéressant.
Oui. Mon entrée en résistance, moi, ça a été assez. assez rapide. J'étais déjà anti-gaulliste ici, anti-pétain ici, mais bon, il faut être d'être anti-gaulliste au contraire. J'avais qu'une envie, c'était d'aller chez De Gaulle, c'est-à-dire en Angleterre. Enfin, ça ne s'est pas trouvé, j'ai résisté, d'abord à Lyon. Et mon frère, qui était fonctionnaire à la préfecture et ancien chasseur alpin en 39 et qui s'était battu en 40, un des rares qui était conduit à se battre parce qu'il avait un commandant qui est mort le fusil à la main, dans une des rares tentatives d'enrayage de l'invasion allemande, et ben, quand il a vu en 42 les chars, les Allemands arriver à la suite, comme nous a dit notre ami, le débarquement allié en Afrique du Nord, ça a été le déclic définitif. Ça avait déjà commencé, mais là, ça a été définitif. Et on s'est dit, c'est le moment, il faut absolument prendre par la main et y aller. Et c'est ce qu'on a fait tout en se méfiant au maximum. Et des nations, c'est sûr, on avait pas de raison. Et dans l'avion, j'étais dans un milieu d'étudiants en médecine. J'ai un camarade qui était étudiant en médecine. Et lui, il n'était pas très grand. Il avait des lunettes, on ne serait pas méfié de ce gars-là. Il n'était pas du tout vindicatif ni agressif. Et il a quitté sa place à l'internat d'un grand professeur de médecine en disant, c'est Guillain qui me l'a appris parce qu'il était avec lui à l'internat, en disant à ses camarades qu'ils partaient pour faire de l'exploration. Tout le monde c'était presque transparent. Enfin, Guillain n'avait pas relevé à ce moment-ci. Et pourtant, Guillain était notre ami Guillain a été l'agent de liaison du général de l'Estrin. Et n'a pas été déporté, comme moi, parce qu'il a eu beaucoup de chance. Bon, enfin bref, oui, on a eu beaucoup de chance. Moi, j'en ai toujours et je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, là, dans ce milieu, on a commencé à faire un peu tout. Évidemment, les tracts, les journaux clandestins, ça a passé un peu de main aussi. Un jour, on a eu... J'étais en pension, mon copain, c'était un gars de mon âge, sa mère était veuve, et louait une chambre, une alcôve plus exactement. Moi, j'étais un petit bourgeois, mais j'avais pas beaucoup de sous pour faire mes études, bien sûr. Alors, comme c'était une alcôve, c'était pas très cher. Et puis, en plus, mes parents habitaient la campagne, et moi, tous les 15 jours, j'amenais ce qu'il fallait pour un peu vivre. Mon père se met du blé. Pour récolter ce blé, c'était pas un grand champ, mais ça lui permettait de me donner d'avoir la carte de pain, parce qu'il fallait une carte et des tickets qui n'étaient pas très abondants pour avoir du pain, de ma mère et de mon père. Ils se débrouillaient avec ça, avec le meunier, le boulanger du petit village, et comme ça, je pouvais à peu près étancher ma faim, et même celle des copains qui venaient de temps en temps chercher une croûte. Voilà comment ça se passait, parce que ça, c'était une préoccupation constante, il fallait manger. J'ai deux camarades qui sont morts de faim, parce qu'ils ne sont pas morts de faim littéralement, on ne les a pas ramassés morts de faim dans la rue, mais ils sont morts de tuberculose galopante, c'était la faiblesse avec les microbes environnants qui n'ont pas vu supporter. Bon, enfin, voilà la vie que ça a été. On a tout de suite... une histoire qui nous a déterminés d'emblée et nous a plongés dans le bain complet, c'est qu'un jour, on reçoit une fille à la maison qui vient sonner. On se méfiait déjà beaucoup parce qu'on avait déjà fait quelque chose. Et une fille sonne, habillée, bien assez jolie fille, et des yeux derrière des lunettes noires parce qu'elle avait des yeux noirs. Je me rappelle de ses yeux pétillants et vifs. Bon sang, curieux ça. Alors on s'est méfié, on a enlevé dans le judas de la porte d'entrée un petit rond de papier blanc dans un coin du judas qui voulait dire vous pouvez sonner, et c'est parce qu'on se méfiait déjà des arrestations. Hein, les miliciens ou la Gestapo s'installaient dans un appartement de résistants, attendaient tous ceux qui arrivaient, hop, à la casse. Bon, Alors on a enlevé le petit papier blanc, puis dit, oh, on est résistant, on est plutôt gaulliste, mais enfin, on fait rien, quoi. Alors cette fille, donc, est arrivée habillée avec des vêtements, on ne trouverait pas ça dans une poubelle aujourd'hui, ce serait horrible. Et les cheveux teints avec visiblement de l'oxygéné, mais enfin elle avait un chapeau qui lui cachait ses yeux, parce qu'elle était assez jolie fille, ses cheveux. Et puis elle nous a dit, ben voilà, je fais de la résistance, je suis membre d'un réseau, j'ai été arrêté par les Gestapo, j'ai simulé à Limoges, j'ai simulé une appendicite, on m'a opéré. Et le lendemain, je me suis évadé en fauchant un imperméable dans un coin. Je suis parti en pleine nuit. J'ai tapé aux portes plusieurs parce que personne n'a voulu tout de suite me recevoir, m'héberger, me donner à manger au moins. Enfin, elle ne mangeait peut-être pas grand-chose, la pauvre. Mais enfin, elle était résistante à tous les points de vue. Et finalement, elle est tombée chez une dame qui était une amie de Madame Sermonard, chez qui j'étais en pension. Ma logeuse qui était devenue une amie, qui était vraiment quelqu'un de formidable. Après, on lui a fait faire ces choses, là, pour... Enfin, dans nos armes, on avait trouvé une matraque en caoutchouc. Alors, quand on chahutait trop, on se battait, nous donnait des coups de matraque pour nous calmer. Oh, c'était la grosse rigolade, parce que nous, pas croire, hein, on ne pleurait pas tous les jours. Hein. On chahutait tant qu'on pouvait. C'était le seul exutoire, et il fallait l'avoir, on l'a toujours. Donc, cette personne était amie, donc elle envoie la femme qui était donc en chemise de nuit à l'hôpital. Elle a tout de suite compris, il n'y avait pas de doute, là, il fallait l'abriter, essayer de la sauver. Et elle a dit, ben voilà, je vais vous donner de l'argent, elle l'a habillée, elle l'a nourrie, et puis elle lui a donné un peu d'argent pour prendre le train, pour venir à Lyon, parce qu'elle disait, là-bas, c'est un milieu de résistance, vous serez sauvés. Alors, bon, quand elle est arrivée, évidemment, sans autre... on s'est méfié, c'est-à-dire, on était déjà à un niveau où il fallait quand même qu'on commence à prendre des précautions. Alors, bon, pour tout le monde, écoutez, je comprends votre réaction, je vais attendre aussi, parce que je ne sais pas comment je vais rejoindre mon réseau. C'était une personne qui, avec un colonel de l'armée française, en 1940, avait créé le réseau Jove ou Jupiter, parce que le nom du réseau, c'était Jove ou Jupiter. Et ce réseau, c'était un réseau de renseignement franco-britannique, on a appelé ça les réseaux Buckmaster. Les Britanniques avaient aidé la résistance par ce moyen-là, et elle avait été emmenée en avion en Angleterre pendant la guerre, pendant l'occupation, instruit par l'intelligence service de tout ce qu'il fallait faire, dont certainement la simulation d'appendicite qu'elle avait parfaitement simulée, au point d'être opérée par le médecin, qui a dû comprendre en voyant l'appendice tout à fait normal, mais enfin il lui a tout de même enlevé, c'était toujours ça de fait, et puis qui n'a rien vu, bon, et qui n'a rien dit, évidemment, c'était une période où déjà... S'il a compris, ce n'était pas le moment de dire quelque chose, et il était probablement d'idées gaullistes. Il y en avait quand même pas mal, heureusement, ce qui nous a sauvé la vie. Et puis voilà, alors, nous, méfiants, hein, on a attendu 15 jours, puis au bout de 15 jours, on s'est rendu compte que vraiment c'était le cas, c'était quand même une bonne. Et puis elle a retrouvé son réseau, c'était des précautions inouïes. Elle a tué un jour un papier dans la boîte aux lettres. Ou je ne sais pas comment, là-dessus, je ne sais jamais ce exactement, et je crois que c'est dans la boîte aux lettres, et elle avait rendez-vous, boulevard de la Part-Dieu, c'était à cette époque, il n'y avait pas encore la gare, à deuxième étage, le nom de l'occupant, tel nom, s'il y a un nom, on va aller voir, alors on a pris déjà, on avait déjà chacun un bon lance-pruneau, et on dit, on t'accompagne. Et puis, si tu ne sais pas, ça donne sur le boulevard, tu nous fais signe avec les rideaux. Et puis, sinon, si on ne voit rien, eh ben on rentre et on flingue et on essaye de te tirer de là. Alors, bon, on a attendu, puis au bout d'un moment, on a vu bouger. Ça va, on est parti. Voilà comment ça se passait. Hein. Et là, on risquait gros quand même. Et puis ça continuait dans ces conditions-là. J'ai eu énormément de chance, parce que je n'ai jamais eu la moindre lettre, sauf le copain qui était interne en médecine et qui avait été parti pour exploration et qui avait créé son réseau et qui faisait du maniement d'armes dans ma chambre, parce qu'après c'était devenu tellement compliqué chez Mme Sermonard que je suis parti dans une autre chambre où il y avait d'autres copains. Et là, j'avais donné la clé, il apprenait à des jeunes à manier une mitraillette, par exemple, qui était... Vous savez d'ailleurs pourquoi on n'avait pas autre chose que des mitraillettes, tout simplement parce que les Anglais avaient peur que ces armes tombent aux mains des communistes. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Il y avait très peu d'armes réellement efficaces. Les bazookas, c'était des instruments épouvantables, ça ratait un char de foin à 20 mètres. Il y avait une seule arme que j'ai connue efficace dans le maquis, c'était le FM, les Brennes.
Fusil
mitrailleur, c'est les Brennes, c'était de très bonnes armes. Et avec ça, à Neuville-sur-Ain, quand on a été attaqué le 11 juillet 1944, eh ben on les a fait s'aplatir plus d'une fois. Hein. On en a cassé quand même quelques-uns. Je regrette de dire que ça sous cette forme, parce que maintenant je suis devenu ami avec des Allemands. C'est ce qu'il faut faire, hein. Pour l'Europe, c'est pas pour rien. C'est éviter des conneries comme on a subi. C'est pas possible. Ces gens-là sont ordinairement sympathiques. Quand ils sont pas nazis, c'est parfait. Et que ça dure. Et continuez. Voilà. Maintenant, si vous voulez d'autres choses sur ce que j'ai fait, ben, posez des questions, c'est tout ce que je peux vous demander.
Ah, c'est un exemple de ce que pouvait être la clandestinité, oui. Et puis petit à petit...
Très divers, oui, c'était très divers.
Ah oui,
je voulais insister sur la presse clandestine. Les débuts de la résistance, son premier gros travail, ça a été de reconquérir l'opinion. Je vous ai dit que pas mal de gens faisaient confiance à Quétin au début, en disant, bon, il a signé la paix, c'est bien. Donc la France était aux trois quarts pétainiste au début. Et les résistants peu nombreux se sont donnés pour première tâche de retourner l'opinion, de démontrer que Pétain c'était un fasciste et que l'issue c'était la résistance sous l'autorité de Gaulle avec l'aide des Anglais. Et pour retourner l'opinion, quel était le moyen? Bon, il y avait les émissions de Radio Londres, mais qu'il fallait écouter discrètement parce qu'on allait en prison si on était surpris à écouter Radio Londres. Alors, ça a été la période des journaux clandestins. Un tract, là, qui s'adresse aux travailleurs, donc d'origine syndicaliste. Vous remarquez, un vilain papier gris. Hein. Un autre qui s'appelle Libération. Libération, c'était plutôt notre tendance. Mm-hmm. Un autre qui s'appelle Les Lettres françaises, parce qu'un grand nombre d'intellectuels français ont suivi Pétain. Certains même ont suivi les Allemands. Oui, je parle de Céline, par exemple. Mais d'autres intellectuels sont entrés dans la lutte, mais par le moyen intellectuel, et publiaient ceci qui s'appelle Les Lettres françaises. Ils ont été d'ailleurs assez sévèrement chassés, et un grand nombre d'entre eux ont été fusillés. Et puis, aussi encore un autre, c'est pas les seuls, hein, c'est un échantillonnage, qui s'appelle Témoignages chrétiens, pour montrer qu'il y avait aussi une résistance chrétienne.
Alors, à ce sujet, une anecdote qui vaut son prix. Le créateur de Témoignages chrétiens, c'est le Mandouze que j'ai eu comme professeur ici.
Oui. Et qui a fait,
en 1941.
Qui a fait une conférence il y a 3 ou 4 ans.
Oui, oui, ici.
Je voudrais dire que la presque totalité de la hiérarchie catholique s'est montrée pétainiste au début parce que Pétain leur a fait beaucoup de cadeaux. Premier cadeau, c'est fermeture des écoles normales d'instituteurs, qui selon lui était une fabrique de socialistes, fauteurs de la défaite. Mais ça a évolué, et beaucoup de chrétiens, en particulier à la base, les curés de village par exemple, ont viré à la résistance. Donc la résistance chrétienne avait pour voie. Sur notre journal de témoignages.
On avait des aumôniers dans l'armée. Ouais.
Sachez que celui-ci, Libération, il était imprimé à Bourg. Paul Pioda, dont on a parlé tout à l'heure, avait recruté un imprimeur courageux,
rue Littré,
qui s'appelait Page.
Oui, je me rappelle plus.
Et puis qui avait deux employés.
J'étais plus là.
Il l'imprimait, le journal Libération, en 43-44, a commencé à faire plusieurs centaines de milliers de journaux.
Ils avaient deux pages.
Il l'a imprimé également, Birakem, le journal Birakem, qui lui était avec un très beau papier pour des raisons qu'on pourrait expliquer. Donc ça a été le premier travail avant de penser à la chose militaire, avant de penser au sabotage, aux actions contre les Allemands. D'ailleurs, il n'y avait pas d'armes à ce moment-là.
Birakem, il faut souligner pourquoi ce titre, ça ne dit rien du tout. Ça a été la première victoire française des gaullistes à côté de la Tripolitaine,
en Libye,
par le général Leclerc, qui a été remonté depuis, avec les Noirs et des Français de, je ne sais pas de quelle origine, mais enfin les Français qui étaient là-bas en Afrique, et qui étaient remontés jusque dans les sables de Tripolitaine,
qui ont
battu les Allemands à Birakem, plus exactement, qui ont tellement résisté qu'ils ont fichu le camp pour retourner en Tunisie d'où ils venaient. Ce qui a aidé à sauver l'Égypte qui était occupée par les Anglais.
Mais alors, le choix du nom de ce journal,
c'était
symbolique. Birakem, ça a été la première victoire. Ça a coûté du monde. Il y a des tas de gens qui se sont fait prendre, qui ont été fusillés ou déportés pour avoir fabriqué ces journaux. Heureusement, l'imprimeur de Bourg n'a jamais été pris. Il a réussi à survivre et à imprimer jusqu'à la fin de l'occupation.
Dans les Calions, ils y sont passés à la casserole.
Oui, il y a eu pas mal de morts. Birakem, d'ailleurs, a perdu une dizaine de ses hommes. Ensuite, on a passé à la phase militaire. On a commencé à recevoir des parachutages. Et en ce qui concerne le lycée, par exemple, on distribuait les journaux qui venaient de l'extérieur aux gens, ceux dont on n'était pas très sûr, on déposait le journal dans le casier ou en ville on déposait le journal dans la boîte aux lettres sans se faire repérer. Alors, phase militaire ensuite, on a commencé à faire connaissance avec la mitraillette. La mitraillette Sten qui a été l'arme standard des maquisards. Alors, on avait une mitraillette pour le lycée. Elle n'était pas dans le lycée, elle était chez un lycéen dont les parents étaient cultivateurs à Périphérie de Bourg.
Bouvet.
Alors on allait chez lui le jeudi après-midi, jour de sortie, on allait chez lui par petits groupes de 4 ou 5 et on apprenait à monter et à démonter cette mitraillette. C'était relativement simple d'ailleurs parce que c'était un engin rudimentaire mais qui ne tombait jamais en panne.
Non, si tu le laissais tomber, ça
partait dangereux aussi. Donc tous les jeudis, il y avait un groupe qui allait chez lui, et également chez Tenon, qui habitait aussi TSNCF, un autre groupe qui allait chez Tenon. Donc au moment où on devait partir au combat, on savait au moins démonter l'arme. Mais on ne pouvait pas tirer avec, on n'a pas pu apprendre à tirer. Contrairement à ce que disaient nos camarades, quand on tirait dans la forêt de Seyon, c'est de la blague. Tirer dans la forêt Seyon, ça voulait dire que un régiment d'Allemands allait arriver. Donc, quand on a eu les premiers combats après le débarquement, ça a été le baptême du feu intégral. On se servait de choses qu'on n'avait pas appris à tirer. On ne savait pas en tirer le meilleur parti. Enfin, voilà. Je vais faire, avant que vous posiez des questions, parce que c'était une phase très importante, les journaux. Très
important, c'était le début. On passe aux questions, alors. Qui souhaite...
Alors maintenant, questions.
Les questions, tous azimuts, hein, même si vous pensez que ça peut vous gêner un peu, allez-y. On a l'habitude. On fait ça souvent, d'ailleurs.
Alors, la piste que vous voulez, au départ, soit sur la vie quotidienne, soit pour sur la déportation, soit sur les maquis.
Alors. Les maquis aussi, oui.
Lancez-vous.
Alors, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais parlez à voix haute et intelligible parce que nos oreilles, elles ont 84 ans.
Moi aussi.
86, alors ça ne fonctionne pas toujours très bien.
Alors, Margot.
Moi, je voulais savoir si vous ou des amis à vous avez caché des juifs.
Oui, moi, oui. À Court-Huitant à Lyon, le jour des braves de juifs Il y avait des camarades qui les prévenaient, ceux qui savaient qu'ils étaient de Lyon et qui savaient où habitaient les Juifs. Écoutez, la France, c'est le pays où il y a le moins de Juifs arrêtés, déportés et donc détruits. On voyait arriver une ou deux ou trois familles de Juifs dans un appartement qui comportait deux pièces, une cuisine et deux alcôves. Bon, on se couchait comme on pouvait, mais enfin, ils n'étaient pas raflés. Et le surlendemain ou le lendemain, je ne sais plus, ça s'est passé deux, trois fois, ils repartaient chez eux, et ils se camouflaient, parce qu'à la fin, les rafles, surtout à la fin, la plupart des gens en France, dans la mesure des moyens, quand ils ne se mettaient pas eux-mêmes en danger, nous, ça aurait bien pu arriver, mais enfin, ça n'est pas...
Alors, il faut dire une chose, c'est que les Juifs payaient. Hein. Moi, ma belle-mère a hébergé une famille de Juifs vers Bagé. Hein.
Oui, la maison des grands-parents.
La maison des grands-parents, une toute petite maison. Ils ont été très, très gentils.
C'était de bons locataires.
Bon locataire, puis de temps en temps, ils trouvaient une pièce de tissu pour offrir, pour remercier, enfin tout ça. Moi, ma mère a hébergé aussi un juif. J'ai jamais su ce qu'il était devenu. Il pleurait tous les jours parce qu'il était au courant. Il savait qu'il y avait des camps de concentration. Nous ne le savions pas. On croyait que c'était des camps de travail. C'est Zégrist, il s'appelait.
Moi, je n'ai pas connu ça parce que... Le sauvetage des Juifs s'est fait par des initiatives individuelles, mais aussi par des filières, ce qu'on appelle des filières. C'est-à-dire, l'organisation à effectif réduit, qui ne s'est pas répandue dans tout le pays, hein, c'était des directions. De même, l'évasion des aviateurs recueillis se faisait par des filières, et pour des raisons de sécurité, la résistance proprement dite, l'armée secrète, mon père a été le créateur et le chef de l'armée secrète du secteur Belgarde-Felix. L'armée secrète ignorait. Et les filières ignoraient aussi l'armée secrète pour des raisons de
sécurité.
Hein, sécurité. Sécurité confidentielle. Et j'ai découvert seulement l'année dernière qu'un groupe d'enfants juifs vivait à la colonie de Bréjantais qui est au-dessus de Belgarde.
Ah oui.
Moi j'ai eu deux camarades juifs au lycée, c'était les frères Abécassis.
Ah oui. Bah bien sûr.
Dont le dernier des frères, l'aîné d'ailleurs, est mort. Et... je suis allé à l'enterrement, à côté de Jujurieux. Et je suis allé à son enterrement, c'était des bons camarades. Et en France, à Bourg, dans ce lycée, il n'y avait pas de hobby anti-juif, ils étaient des bons copains. Tu t'appelles Bécassis, tu fais un copain, il n'y avait absolument rien.
Il y a eu aucun
racisme, même
aussi
pendant la guerre.
Les deux frères Kaplan.
Oui,
les Kaplan.
Les deux frères Kaplan
qui viennent toujours à nos réunions d'ailleurs.
Leur nom commence par un K et ils étaient inscrits au lycée avec Kaplan, avec un C. C'était pas très malin. C'était les enfants du grand rabbin de France. Un personnage extraordinaire d'ailleurs.
Oui.
J'ai lu de sa vie, là, ça a été un homme d'une culture, d'une très grande culture, et puis qui a œuvré. C'est les deux frères Kaplan, qui avaient une sœur au lycée de Gardinet.
Les deux, on appelait les petites Kaplan.
Sont partis en 1942 parce que, au lycée de filles, ils avaient repéré qu'une lycéenne, fille de milicien ou quelque chose comme ça, commençait à avoir des doutes. Et ça commençait à devenir dangereux. Alors, ils ont quitté le lycée Quinet pour les deux frères et le lycée Quinet pour les filles, le lycée Lalande pour les garçons. Je ne sais pas où ils sont allés, non. Mais j'ai étudié aussi à Bellegarde. Bellegarde, c'était la zone de démarcation. Vous avez entendu parler de la zone de démarcation entre la zone occupée par les Allemands à la suite des accords de Pétain, et la zone libre,
dite
entre,
libre,
entre guillemets, dite libre, qui a cessé d'être libre le 11 novembre 1942. Et alors, il y avait, à cette ligne, il y avait une surveillance allemande très active. À Bellegarde, la ville de Bellegarde était coupée en deux, parce que la ligne était sur la rivière la Valserine. Il y avait donc le quartier de Coupy, qui était en zone occupée, le quartier libre, qui était à la ville de Bellegarde, mais toutes les usines étaient à Bellegarde. Ça fait que les gens de Coupy, pour aller travailler, avait besoin d'un Ausweis, un laissez-passer, qui était distribué avec parcimonie et avec prudence. Les Allemands étaient très attentifs. Et donc, la ligne de démarcation qui était la rivière La Valserine était un lieu de passage. J'ai retrouvé des gens extrêmement modestes qui n'en ont pas parlé, qui faisaient du passage. Ils ne savaient pas, les gens qui le recevaient ne savaient pas d'où ils venaient, qui ils étaient. Ils avaient seulement pour mission de leur faire traverser la Valserine pour les conduire de l'autre côté, dans la zone occupée, qui était aussi la zone interdite parce que c'était près de la frontière suisse. J'en ai retrouvé deux qui ont fait ça, qui n'en ont jamais parlé, qui n'appartenaient pas à la résistance par ailleurs, mais qui avaient reçu un diplôme grand comme ça, magnifique, diplôme de passeur, signé Général de Gaulle, Général de l'Armange. J'ai trouvé ça par hasard.
Tiens.
Ils m'ont dit, dis donc, j'ai un truc dans le fond de tiroir, je ne sais pas ce que c'est, ça concerne mon grand-père, et ils m'ont sorti ça. J'ai sauté en l'air, j'ai dit, vous avez attendu 60 ans pour dire un truc pareil. Alors ça, c'était les filières d'évasion complètement indépendantes de l'organisation de résistance.
Et qui concernaient les Juifs.
Et qui concernaient les, ou les Juifs, ou les aviateurs,
ou, oui,
les aviateurs abattus, ou des grands personnages qui, ouais, qui devaient passer par l'Espagne, ou bien qui devaient venir sur Toulon, où on les embarquait dans des sous-marins pour aller rendre compte à De Gaulle à Londres. Allez-y, pour
autre question.
Moi, je voulais savoir comment les gens ils vivaient dans les maquis, pas que pour se raviter.
La vie des maquisards.
Ouais, exactement.
Ouais. Vous savez que ça a commencé en 43, hein, le printemps 43, à cause, comme l'a dit François, de l'instauration du service du travail obligatoire.
Alors, des petits groupes.
Il y a des, il y en a qui sont partis parce qu'on ne peut plus faire autrement. D'autres sont partis parce qu'ils craignaient les représailles sur leur famille. Et puis une minorité, vous voyez, c'est une minorité, ont refusé de partir et sont montés dans la montagne. La région ici est très, très favorable, hein, le Valromey, le Bas-Bugey, le Haut-Bugey, le Jura, c'est la forêt, des clairières, c'est un lieu où on peut se cacher. Donc, c'est dommage, je n'ai pas la photo là. Le premier groupe des Bellegardiens qui sont montés, ils avaient le sac de montagne, ils étaient habillés comme ils pouvaient, et ils avaient un bâton, et ils sont montés sur le plateau de Retor, où vous savez qu'on fait du ski de fond. Il y avait encore des fermes habitées là. Ils se sont installés tant bien que mal par petits groupes dans des fermes. Ensuite, il y a eu des regroupements qui ont constitué ce qu'on appelait des camps. Alors au début, c'était difficile parce qu'ils s'étaient mis hors la loi. Donc ils n'avaient plus de carte d'alimentation. Il fallait les nourrir quand même. C'est l'AS à Belgien qui essayait de s'occuper de ça. Il fallait trouver au marché noir.
L'AS, ça voulait dire l'armée secrète.
L'armée secrète, oui. Il fallait trouver des pommes de terre, enfin tous les produits alimentaires possibles pour les monter à la montagne. Et ça, il y a eu des moments où ça a été très dur, où on ne pouvait plus rien trouver. Je connais un camp qui a vécu pendant une semaine avec des carottes. Il n'y avait que des carottes. Bon, quand les camps se sont un peu regroupés et ont commencé à être armés, ils ont pu envisager des actions plus payantes, hein. Par exemple, à Belgarde, ça s'est produit, un groupe est descendu avec un camion. Il y avait pourtant une garnison allemande, mais bon, un peu sur le bord de la ville, il y avait un épicier en gros, un commerce d'épicerie en gros, chargé de distribuer dans les petites épiceries du village. Alors les maquisards sont descendus avec un camion bien armé, et ils ont posté quelqu'un pour voir si un Allemand n'arrivait pas par la rue Lafayette, c'est-à-dire du côté de la Commandantour, et ils ont pillé en quelque sorte ce dépôt de... Bon, ils ont pris de la farine, des conserves, etc. Mais ils ont pillé proprement. C'est-à-dire que devant l'entrée du camion, il y avait l'officier et le patron de l'épicerie, qui était un brave homme d'ailleurs. Hein.
Qui était connivant souvent.
Oui, c'était un brave homme, il comprenait bien la chose. Et il notait tout ce qui était mis à rentrer dans le camion. On fait la liste. Tout ce qui a été pris, ça se passe à l'automne. C'était les provisions pour que les maquisards puissent passer l'hiver. Fin de liste, signature de l'officier et signature du marchand, M. Roux. Était entendu que tout cela allait lui être remboursé à la libération.
Oui, on donnait des bons.
Ce qui a été fait. Il a présenté sa liste et il a été remboursé. Voilà. Remboursé sans aucun problème.
J'ai participé à une opération.
Ouais. Bon, les cultivateurs qui étaient nombreux, la France était rurale à l'époque, hein, c'est pas comme maintenant, il y avait des fermes un peu partout. Les cultivateurs ont beaucoup contribué aussi en donnant. C'était difficile pour eux et c'était aussi dangereux parce que le gouvernement de Pétain avait institué le service du ravitaillement qui devait prélever une grande partie des récoltes françaises pour les donner aux Allemands. C'était les accords d'armistice. La France était carrément pillée. Donc un cultivateur donné qui, par exemple, avait 8 vaches, ces vaches étaient déclarées à la mairie. Si une vache faisait un veau, il fallait qu'il le déclare.
Alors, à la ferme, on ne pillait plus chez les... On n'avait pas pillé beaucoup chez les simples cultivateurs.
Ils essayaient de ne pas tout déclarer, d'avoir un deuxième veau clandestin qui était vendu au maquis. De même pour la farine. Il y a eu une période où on ne pouvait plus. Moi, le pain à Bellegarde était fabriqué à la coopérative où était mon père. Il y a eu une période où il n'y avait plus de farine. C'est des camarades de la région de Bresse, qui étaient plus riches agricolement, qui ont amené des sacs de farine à la boulangerie pour faire le pain pour le maquis. Et il y avait un agent de liaison qui montait tous les jours porter le ravitaillement et les lettres. Au cas qui était dans la montagne, les gardes ouvrent 4 km,
on est dans le vélo,
disons encore 4 km dans la montagne, mais au fond de la forêt. Voilà comment ça se passait. Ces garçons ont eu une vie difficile, ils ont eu faim parfois, et puis ils ont eu très froid l'hiver, parce qu'ils n'étaient pas équipés. Alors, on a reçu des garçons envoyés par la résistance de Lyon, ils atterrissaient ou chez Breton ou chez mon père. On leur disait, vous allez chez un tel ou chez un tel. Vous montrez au maquis, mais on ne leur disait pas que à 1200 mètres d'altitude, c'était pas comme à Lyon. Et ils arrivaient en souliers bas et en costume de ville. On n'avait pas autre chose à leur donner. Alors certains ont été très mécontents. Finalement, ils ont trouvé le moyen de s'habiller tout de même. À partir du moment où il y a eu quelques armes quand même et où il y a eu un encadrement par des officiers, il y a eu des coups de main. Il y avait par exemple à Artemare un très gros dépôt contenant des pantalons, des blousons de cuir, des chaussures. C'était un dépôt de ce qu'on appelle les chantiers de jeunesse. C'est un petit peu lent à vous expliquer. Bon, on descend des maquis avec les camions, on neutralise les gardes et tout, et on embarque tout ça. Si bien que les maquisards de l'hiver 43-44, pour la plupart, avaient un blouson de cuir, un pantalon chaud et des godasses. Si vous avez vu des photos du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non. Ils étaient habillés comme ça.
C'est un truc qui a fait beaucoup de bruit et beaucoup de bien à la résistance parce que ça a été raconté à la radio de Londres, donc toute la France l'a su. Et puis même les étrangers ont su que la résistance et les maquis existaient officiellement parce que ça a été filmé. Et les photos sont passées dans la presse internationale, pas nationale, Pétain, mais internationale, Angleterre, Amérique.
Pour la vie des maquis aussi, bon, au début, ils se sont répartis dans des fermes, sans armes. Certains ont construit des cabanes dans la forêt. Si vous avez visité le musée d'Antuin ?
Non, ils y vont.
Il y a une reproduction de cabanes en bois. Ça allait bien pour l'été 43, mais pour l'hiver, ça n'allait plus. Ils ont vécu aussi sous des tentes de scouts ou des tentes improvisées avec de la toile de parachute. Mais quand est venu l'hiver, il a bien fallu quand même qu'ils logent à couvert, donc dans des fermes.
D'alpage.
Les fermes de ce secteur, ce sont des fermes d'alpage qui ne sont occupées que l'été. Donc l'hiver, il n'y avait personne qui pouvait s'installer là. Et ils étaient en danger là parce que, compte tenu des délations dont je vous parlais tout à l'heure, ces camps étaient parfois dénoncés et les Allemands ou la milice ou la police montaient pour essayer de les attraper.
Je crois qu'il serait bon là justement de parler de l'action de du maquis, action armée, hein, qui avait plusieurs visages. Oui. Alors c'était non seulement pour des coups de main pour de la nourriture, mais c'était aussi pour faire sauter des voies, etc. Oui. Et c'était surtout pour préparer la libération.
Oui, ils se préparaient pour le débarquement.
Pour le débarquement.
Donc le jour du débarquement, il allait y avoir la levée en masse, si je puis dire. Donc, il y avait donc les maquisards déjà organisés, entraînés, armés, et ils allaient être rejoints par les membres de l'armée secrète, qui étaient des résistants civils, qui faisaient de la résistance chez eux, où ils sortaient aussi la nuit pour faire des coups de main, faire des sabotages. Enfin, ils n'étaient pas découverts.
Ils étaient encore chez eux.
Mais le 7 juin, ils ont reçu l'ordre de rejoindre les maquis.
C'est comme ça.
Donc, le maquis a passé de 500 hommes environ à 5000. Mais 5000 qui n'étaient pas tous bien armés et qui constituaient quand même une troupe assez lourde. Hein, peut-être même un peu trop lourde.
Mais bien organisée.
Avec la mission, là, de fixer les Allemands sur place. Attaquer les garnisons allemandes. La Bellegarde, le 7 juin, on a attaqué la garnison allemande. Faire sauter les ponts, faire sauter les rails, détruire les locomotives, c'est-à-dire immobiliser l'armée allemande présente ici, sur place, pour l'empêcher de monter en renfort en Normandie. Parce qu'il faut savoir que le débarquement du 6 juin a réussi, mais ce n'était qu'un débarquement sur la bande côtière. Pour pénétrer ensuite à l'intérieur du pays, ça a été une bataille extrêmement rude, extrêmement meurtrière.
La bataille de Caen.
La bataille de Normandie, la bataille des bocages, la bataille des buissons, qui a duré quand même plus d'un mois et qui a été extrêmement meurtrière. Donc il était de première importance que les renforts allemands sur toute la France soient immobilisés sur place. Par exemple, il y avait dans la région toulousaine la fameuse division Das Reich. Les SS, c'était les pires de tous. Ils remontaient en direction de la Normandie, et s'ils étaient arrivés assez tôt, ça aurait peut-être pu changer la face des choses. Mais pendant toute leur remontée, ils ont été arrêtés par des ponts détruits, par des routes abîmées, etc., etc. Ils ont mis, je crois, 3 ou 4 semaines pour monter. Mais pour arriver à monter, ils sont devenus très méchants. Et ils se sont livrés à des exactions pour faire peur à la population, pour que la population se tourne contre les résistants.
Oradour.
Alors, vous avez entendu parler d'Oradour-sur-Glane, c'est un bon exemple. Un village, il n'y avait pas de résistance d'ailleurs, a été entièrement détruit, brûlé. Tous les habitants, femmes et enfants brûlés dans l'église, et les hommes assassinés dans les granges. Tout ça pour répandre la terreur, pour que la résistance cesse de faire des actions contre la division d'Austrais. C'était très important. C'est là que la résistance a montré que c'était tout à fait important. Un exemple, une division blindée qui était sur le front russe. Et Dieu sait si, à l'époque, sur le front russe, les Allemands étaient en difficulté. Une division est ramenée en vitesse pour venir sur le front de Normandie, du fin fond de la Pologne. Ils ont mis, je crois, une semaine pour arriver à Strasbourg par le train, et puis ensuite ils ont mis 4 semaines pour arriver en Normandie pour la bataille de Normandie. Même chose, le débarquement en Provence. Il y a eu un débarquement en Provence au mois d'août, 15 août.
44.
La feuille de route du général américain qui dirigeait cette opération, qui était franco-américaine, c'était Grenoble dans 90 jours.
Oui, c'était 15 jours.
Alors, tous les maquis des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ain et puis de l'Ardèche avaient tellement bien travaillé qu'il est arrivé à Grenoble en
15 jours, un peu plus
d'une semaine.
Le 29 août, ils étaient en Berry.
Un peu plus d'une semaine.
Les Américains étaient en Berry le 29 août 1944.
Ouais. Il y a des gens qui disent que la résistance n'a servi à rien. Les négationnistes.
Les Américains n'en revenaient pas.
Je vous donne des exemples très extrêmement précis.
Eisenhower l'a reconnu.
Ah, ouais.
Bon, bien.
Autre question.
Oui.
Oui.
Comment vous avez vécu l'invasion allemande à Bourg quand ils sont arrivés? Ils ont passé en zone libre.
J'avoue que je n'ai pas tout entendu.
L'arrivée des Allemands
à Bourg. À Bourg
en 40.
En 40.
Ou en
40.
En 42.
En 42. Ah
ben
oui, on était là.
Oui, bien sûr. Le 11 novembre 42.
Ah
Mais ils sont rentrés comme dans l'humeur.
Ah, mais il n'y a pas eu d'opposition, puisque la France libre, la zone libre était commandée par Pétain, et Pétain n'était pas apte à s'opposer aux Allemands. Et il n'avait plus d'armée d'ailleurs. Les accords d'armistice lui avaient accordé une armée tout à fait théorique de 100 000 hommes. Il y a un général qui a essayé de bouger, de s'opposer, mais il a été arrêté par la gendarmerie. On l'a mis en prison parce qu'il avait essayé de s'opposer. Donc ils sont entrés comme dans du beurre, les Allemands se sont répandus partout. Et le malheur, là, il y a eu...
Sauf là-dedans. Hein.
Faute énorme de Pétain et de ses séides. Il a laissé faire ça et il n'a pas donné l'ordre à la flotte de Toulon de fiche le camp. La flotte méditerranéenne, la flotte française de Méditerranée était la plus forte, de très loin la plus forte. Elle était basée à Toulon. Elle aurait pu partir, puisque les Allemands pénétraient en zone libre, elle aurait pu partir pour aller en Afrique du Nord. Et elle a reçu l'ordre de ne pas bouger et de se saborder. Donc toute la flotte française s'est sabordée en rade de Toulon.
À part deux ou trois sous-marins.
À part deux ou trois sous-marins plus malins que les autres qui ont réussi à fuir. Alors que cette armada, si elle était passée en Afrique du Nord, ça constituait pour les Allemands un obstacle énorme, parce que c'était une flotte extrêmement puissante.
Oui, mais
la faute à Pétain.
Il faut dire aussi qu'il leur fallait 3 jours pour des gros bâtiments, par exemple, enfin,
pour se mettre en route.
Ouais.
Enfin, ils auraient pu aussi y penser avant, puis se tenir secrètement.
Hein, mais non. Oui, mais les deux flottes anglaises et américaines à l'époque, elles étaient un peu comme ça. Ouais.
Je voudrais savoir s'il y a eu une épuration à Bourg.
Une épuration?
Oui. Est-ce qu'on peut parler d'épuration ou pas à Bourg?
Après la libération.
Après la libération.
Bien sûr. Il a été prononcé l'état de fadaise, de mensonge, au sujet de l'épuration. Un certain Maurras, bien connu, est allé jusqu'à dire qu'il y avait eu 100 000 exécutions de collaborateurs pour la résistance. Il a fallu que le général de Gaulle intervienne à l'Assemblée nationale pour dire que c'était faux. Le chiffre à l'échelon national doit être tourné aux alentours de 10 000. Donc des gens qui ont été jugés par des tribunaux légaux après la libération pour ayant commis des actions contre la résistance. Il y a eu aussi des exécutions sommaires.
Oui.
Ça, il faut le dire. Qui ont procédé à des exécutions sommaires,
et puis des censures.
Mais ça n'a pas été le bain de sang dont on parle. Alors à Bourg, il ne s'est pas passé grand-chose. Je n'ai pas connaissance qu'on ait exécuté quelqu'un. Il y en a qui ont fait quelques jours de prison.
Il y a eu les derniers juifs exécutés.
Le milicien. Alors les Allemands en ont profité au mois de juillet pour exécuter les derniers juifs qui étaient à Bourg, qui ne s'étaient pas sauvés.
Donc père de Bécassis.
Un exemple d'épuration, d'épuration ratée, le milicien qui a abattu notre ami Roger Guettet dans l'affaire de la trésorerie générale. Il était identifié, c'est lequel l'a abattu. Il n'a pas tué, il l'a blessé, en fait, il l'a abattu. Il a passé en tribunal à Bourg en 1945. La victime, Roger Guettet, était rétablie et il est venu témoigner. Il me dit c'est bien celui-là qui m'a tiré dessus. Alors, personne n'avait envie de condamner ce type. L'avocat est allé jusqu'à dire: Monsieur Guettet, vous êtes bien sûr, vous avez vu la balle sortir du canon de cette ferme pour vous atteindre? Oui, on est allé jusque-là. Ce qui l'a fait bondir. Et il a eu tort parce qu'on ne parle pas après l'avocat. Donc il y a eu vice de forme. Donc on a refait le procès de ce garçon, de ce milicien, mais on ne l'a pas fait à Bourg, on l'a fait, je crois, à Lens-le-Saunier. Et on a omis de convoquer la victime. Si bien que, moyennant l'engagement pour lui de s'engager dans l'armée française qui allait en Indochine, s'en est tiré comme ça, avec les honneurs, il est revenu d'Indochine, couvert de médailles. L'épuration, c'était ou alors quelques mois de prison, quelques jours de prison, enfin, des choses tout à fait bénignes, quelques cas.
Le collègue lycéen qu'on évoquait tout à l'heure, qui nous a vendu, c'est lui qui avait livré la liste à la milice. Bon, quand je suis revenu de Caen, d'Allemagne, j'ai demandé ce qu'il était devenu. Et Paul Morin a recherché longtemps, et il a fini par trouver que, il s'appelait Delaney, je peux dire son nom, que ce Delaney s'en était pas mal tiré, et il m'a écrit en me disant, Delaney est allé se faire blanchir en Afrique noire. C'est-à-dire qu'il s'était engagé dans une partie de l'armée, et puis, on a passé l'éponge dessus, et on a retrouvé ses traces ensuite, où il était tout à fait tranquille, dans le midi de la France.
Il était en train de finir sa vie tranquillement sur la côte
d'Azur. Sur la côte d'Azur.
Dans une belle maison. Ouais. Il se trouve qu'il est voisin avec un camarade du lycée de Nantua, qui a failli être déporté, c'est-à-dire qui a été raflé, parce qu'il y a eu une grosse rafle à Nantua au mois de décembre 1943, y compris dans le lycée. Il a été raflé, mais il a réussi à sauter du train, à desceller la grille du haut et à sauter du train, ainsi qu'une dizaine d'autres, contre le gré des autres, qui disaient il y aura des représailles, ils vont tous nous fusiller si vous évadez. Bon, ils se sont évadés, et puis ça, pour les autres, ils sont allés en déportation. Et ils vivaient dans le midi, et ils se sont rencontrés, ils sont voisins. Ouais. Ils sont voisins. Et Delaney,
il aurait pu avoir épuration hein, de Delaney en envoyant une dizaine de ses camarades en camp en Allemagne. Bon, le maquis aurait pu le descendre, quoi. Mais non, c'est passé en justice, de là, il y a eu... diverses interventions, etc., et il s'en est tiré.
Bon, il y avait des consignes en haut lieu de jouer l'apaisement. Oui. Finalement,
un apaisement tel que dans les gens qui ont soutenu le général de Gaulle, il y a pas mal de vichysois qui ont fait partie des...
Il y en a qui ont changé de chemise vite.
Oui. De Gaulle avait très peur qu'il y ait la révolution. Ouais. Il craignait beaucoup les communistes. Ils n'étaient pas en mesure de faire la révolution, mais il voulait accéder au pouvoir, quand ouais. même, c'est vrai. Alors, à cause de cette menace communiste, il a voulu temporiser, l'épuration s'est passée comme on vient de vous le dire. Tous les fonctionnaires qui ont collaboré, comme Papon,
hein, oui, c'est Papon, un cas.
Papon a passé en tribunal à la fin de sa vie grâce à l'obstination d'un homme. Mais tous les autres hauts fonctionnaires qui avaient collaboré se sont retrouvés dans le régime gaulliste, comme ça, sans problème. Sans problème. Il fallait jouer la réconciliation et l'apaisement. Et j'avoue que nous, ça nous a fait mal. On était assez dégoûtés de ce qui se passait.
Oui, mais finalement.
Quand on a eu fini, on a dit, bon, on pose le fusil, on rentre à la maison.
On fait
et, puis, et puis on en parle. Et on a eu tort, on est resté très longtemps sans parler.
Ouais. Autre question.
Moi, je voulais savoir quand est-ce que vous avez su ce qui se passait dans les camps de concentration. Quand est-ce que vous avez découvert ça?
Alors, moi, personnellement, comme j'étais dans un camp de représailles, je savais qu'il y avait des camps qui étaient des camps de concentration où il y avait, disons, des juifs en particulier. Mais je ne savais pas que c'était des camps d'extermination. Il a fallu que je revienne, que j'arrive en France pour voir les images, des reportages, etc., et qui m'ont parlé de camps d'extermination. Songez que les Américains eux-mêmes ont découvert des camps comme Buchenwald, etc., avec effarement, ils ne savaient pas que l'extermination était à ce point-là. Alors moi, je me trouvais pourtant pas très loin, à 60 km d'Auschwitz. Et la seule chose que j'ai su, c'est au 25 janvier 1944, quand les Russes ont avancé et ont repoussé l'armée allemande, ils ont vidé des camps, en particulier ceux de Gleiwitz et d'Auschwitz.
Ils ont découvert Auschwitz.
Et ils ont découvert Auschwitz. Et nous, dans notre camp de représailles, nous avons reçu des bagnards, hein, et on a appris que c'était des juifs, etc. C'était, Ça a été terrible, quoi. Et il y avait parmi eux un champion de France de natation qui s'appelait Nakache, avec lequel on a essayé de discuter, mais aussitôt les SS, les chiens, etc., on n'a pas pu aller plus loin. Et on s'est dit, oulala, mais c'était encore plus terrible que chez nous. Et en effet, c'était terrible.
L'ensemble de la population en France, jusqu'à la libération des camps, et même l'ensemble de la résistance, n'imaginait pas tout ça. On savait que ce serait très dur, mais on n'imaginait pas. Mais il faut dire, à la lumière d'études historiques récentes, que les gouvernements le savaient. Les gouvernements le savaient.
Et le pape aussi.
Et le pape également. Il y a eu quelques évasions miraculeuses, et des rapports ont été envoyés dans les différents gouvernements. Il y a même eu une réunion, bon, je peux retrouver ça dans mon pense-bête, là, une réunion des chefs de gouvernement alliés à ce sujet, pour envisager par exemple la possibilité de bombarder les voies de chemin de fer conduisant dans les camps, des choses de ce genre. Je ne sais plus à quelle date, ça doit être en 1942, et ils ont décidé de ne rien faire, parce que toutes les forces aériennes étaient nécessaires pour la bataille, donc...
Il y avait du scepticisme aussi.
Oui, mais les gouvernements ont été au courant, ça s'est découvert il n'y a pas tellement longtemps. Hein. On sait que les gouvernements savaient, mais on s'est tu pour ne pas déclencher des réactions trop vives dans la population. Je sais, par exemple, exemple personnel, mon père a été arrêté le 24 novembre 1943. Il a été enfermé à la citadelle de Besançon jusqu'à fin janvier. Fin janvier, il monte dans un wagon. Il réussit à faire passer un petit bout de papier, un carnet, comme ça écrit au crayon, à travers les planches du wagon. Gare de l'Est. Ce papier est récupéré par un cheminot qui nous l'envoie. Une lettre sous X, hein.
Oui.
Je l'ai là, sa lettre. Il signe courage, espoir. Mais il ne peut pas donner son nom, puisqu'il prend un risque. Donc, c'est le dernier signe de vie qu'on a eu de mon père, fin janvier 44. Il a été arrêté en 43, mais c'est fin janvier 44. Et après, plus rien. Donc, c'est à la libération qu'un des survivants de son camp nous a dit quand il était mort, comment il était mort et comment ça se passait dans le camp. Et entre-temps, on n'a rien su. Il y a des parents de déportés qui ont reçu des cartes, j'en ai d'ailleurs, de Mauthausen, certains camps. Ils ont eu la permission, les prisonniers ont eu la permission une fois d'envoyer une carte toute faite, imprimée par les Allemands, où ils avaient le droit d'écrire... Je vais bien, je suis en bonne santé. J'en ai une d'un garçon de Bellegarde, là. Mais pour les déportés de catégorie NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard, rien. Disparition totale.
Bien, on va vous remercier pour cette... intervention.
On a été un peu trop bavard, peut-être, on n'a pas laissé parler les élèves
non, suffisamment. Non, mais il y aura forcément des questions qu'on n'aura pas eu le temps de poser, c'est toujours...
Mais ils vous les poseront à vous.
Ah, mais moi, je ne serai pas à la hauteur. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. 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 Dans vos lectures, si vous avez des lectures sur ce sujet, faites attention qu'il existe quand même des ouvrages qui sont complètement changés. Je parle des autres.